parmi mon frère, monsieur le président de l'association, mesdames et messieurs. Le sujet qui m'est imparti, c'est donc les enfants et les sexes, état de la question et rôle de l'État. Très classiquement, je vais donc vous faire un état de la question avec un certain nombre d'exemples qui ont été reçus à l'origine de cas très récents qui ont eu à être étudiés. Et puis dans un second temps, je vais essayer de vous montrer que la protection des mineurs n'est pas un sujet anodin en France, qu'il y a un dispositif ancien, lourd, important, et que la préoccupation de la sécurité des enfants est antérieure au phénomène sectaire, et que c'est donc au nom d'un droit commun que l'on s'intéresse aux dangers et aux risques que courent les enfants dans le cadre sectaire. Quels sont les exemples que j'ai eu moi directement à connaître? Le premier, c'est celui d'un adolescent de 17 ans, sortant d'un groupe du sud de la France, très fermé, dans lequel il n'avait pas fait d'études et qui cherchait absolument à trouver une insertion dans la société. La seule chose qu'il ait apprise, c'est l'informatique, puisqu'il était celui qui entretenait le site de sa communauté. Il est sorti, il ne voulait pas être pris en charge par son département d'origine. Et le problème social s'est posé. Comment est-ce qu'on réinsère un adolescent sur un sexe? Et comment est-ce qu'on fait pour que son dossier soit suivi? Je peux vous dire que dans l'état actuel de la question, le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'individuellement, ce dossier-là a été réglé, mais pratiquement, la question des jeunes sortants de sexe n'est pas réglée. La seconde à laquelle je pense, c'est une jeune fille de 20 ans, enseignante, sortant des mois de Jéhovah. Et elle est sortie en même temps que ses parents. Mais elle y a laissé sa sœur, elle y a laissé un certain nombre d'amis, et d'une certaine façon, quand on discute avec elle, elle est encore, en tout cas partiellement, chez le témoin de Jéhovah. Dans sa tête, toute une série de choses fonctionnent comme si elle était encore dans le monde. Et elle est l'exemple même de ce que Jean-Claude Masse définit dans ses livres comme le cohabitable. C'est-à-dire que l'engagement qu'elle prend aux côtés de ses parents pour essayer de sortir sa sœur du monde, d'une certaine façon, entretient en elle la secte. Et elle est dans une espèce de bulle intermédiaire qui n'est plus tout à fait la secte et pas encore le monde normal et classique. Troisième exemple, c'est un petit Hugo, il a 8 ans. Ses parents artistes décident de le mettre dans une école dite alternative, dans laquelle on pratique beaucoup d'art. C'est une école Steiner, sous contrat. Et cette école finit par rendre cet enfant extraordinairement malheureux, parce que, aussi bien la médecine scolaire pratique par le même groupe que les enseignants, considère qu'un pied bourre, c'est le résultat d'une baisse karmique. Et que donc ce petit n'a pas de possibilité d'avoir une vie épanouie, en tout cas pas cette vie-là. Il faudra qu'il en attende une autre pour éventuellement avoir un avenir satisfaisant. Et donc, plus il est marginalisé dans l'école, et plus c'est difficile pour lui. Le quatrième exemple, ce sont deux petites filles qui ont 8 et 10 ans. Et ce ne sont pas les qui parlent, mais leur père. Leur père qui les ramène du Canada, où elles ont fait un terrible parcours en nomadisant dans le Grand Nord canadien, dans un groupe qui s'appelle Écovie. Les parents finissent par quitter le groupe, se réinstallent en France. La mère, recontactée par le groupe, repart avec ses deux petites filles. Et c'est tout un périple judiciaire que d'arriver à récupérer les deux gamines, qui de toute façon sont encore extraordinairement fragilisées au moment où moi je les rencontre, parce qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer, elles n'arrivent pas à transmettre leur expérience à leurs camarades, qui ne peuvent absolument pas comprendre le quart de ce qu'elles racontent. Un autre enfant est un enfant indigo, c'est la grand-mère que je raconte. Elle est totalement bloquée, puisque cet enfant extrêmement difficile, dit-elle, pas très bien élevé, j'ai dit qu'on parlait même, c'est un grand classique de sa défie, cet enfant pas très bien élevé, qu'elle définit comme caractériel, finit par être retiré du circuit scolaire, et c'est le premier enfant indigo que nous avons à connaître à l'individu, c'est-à-dire un enfant qui est considéré non pas comme un caractériel, non pas comme quelqu'un en échec scolaire, mais quelqu'un qui est le messie du nouvel âge, celui qui va porter toute la lumière à venir, et qui du coup est renforcé dans ses tendances égotistes et complètement coupé du monde extérieur. Le sixième exemple est celui d'un petit garçon qui a 2 ans seulement. Là aussi, c'est son père qui parle. Il vit une rupture familiale et il explique qu'au sein des cercles Alain de Kardec, les enfants tout petits, et même les fœtus, c'est-à-dire les femmes dès qu'elles sont enceintes, se voient attribuer par le couple des gourous, qui est un couple féminin-masculin, une âme, et que l'enfant à naître est déclaré étant Jean Villard, par exemple, dans le cas du petit dont j'ai eu à connaître, mais aussi Victor Hugo, Dix, etc. Et qu'en permanence, on les emmène, les femmes enceintes, mais ensuite les tout-petits bébés, puis les jeunes bébés, et puis les petits-enfants, dans des lieux parfaitement spectaculaires, type Carnac ou autre, et que dans ces lieux-là, des cérémonies rappellent ou interprète dans des phénomènes de médium l'idée que cet enfant représente Jean Villard et va faire la carrière de Jean Villard. Imaginez grandir en étant Victor Hugo, c'est un peu compliqué, ou même Jean Villard, c'est très compliqué. Et puis, bien sûr, et je ne m'attarderai pas, sur tous les cas que nous avons à connaître, de petits garçons abusés par leur père, et leurs amis, à cause de l'initiation au plaisir du gourou Braille, d'une petite fille violée chaque jour par le gourou de l'instinctothérapie de 6 à 10 ans, ni une autre jeune femme, que j'ai connue jeune femme, prêtée par son père, qui fantasmait l'inceste et qui donne sa fille au gourou, dans le cadre d'une affaire qui sera traitée à Marseille. De tout ça, que peut-on dire ? Eh bien, que l'enfant est le cible, la cible des concepteurs. Il est manipulé tout petit, il y a tout un discours sur ce qu'est le fœtus, en particulier dans la fraternité d'Ange universelle. Comme je dis, 25 minutes. Le texte n'est pas le plus long. Vous le trouvez sur le site de la Miviludes, si vous voulez des références plus exactes, plus précises, des citations, etc. Donc l'enfant est cible dès sa conception. Mais même avant sa conception, le couple est constitué pour pouvoir faire un enfant qu'on donnera au gourou. C'est le cas, y compris à la Sotagaka, qui est le couple pour sauver le fou, c'est-à-dire pour construire la propagande du gourou et le futur gourou. C'est le cas aussi, vous savez, pour les mariages de Moon. C'est le cas dans les groupes orientalistes comme ça, yoga, avec Sumataji, qui a un discours absolument ahurissant sur les enfants. Je passe, vous trouverez ça sur le site. C'est-à-dire que le discours de Sumataji, c'est je suis la mère de vos enfants, donnez-les-moi. Et vous les donnez quand ils sont à peu près éduqués de la première éducation, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans. Et jusqu'à 5 ans, il n'y a aucun problème, vous pouvez les taper, les battre, etc. Ce ne sont que des larmes. Donc, allez-y gaiement. Donc, la maltraitance, c'est quelque chose de très courant et de permanent. La maltraitance, elle est quelque chose que l'on perçoit, certaines, pour des données que je vais montrer tout à l'heure, cette souffrance, elle est parfaitement perceptible dans les jugements civils, qui ne sont pas forcément donnés à la connaissance du public quand il s'agit d'affaires familiales, quand il s'agit de jugements de divorce, mais qui montrent à quel point ces enfants sont, avec tous les guillemets possibles, survictimisés dans les situations de l'appartenance sexuelle des parents. C'est-à-dire qu'ils sont de toute façon victimes d'un divorce, mais que le divorce dans un cadre sectaire est particulièrement lourd. Sans qu'il y ait une rupture avec des parents adultes qui restent ensemble, les enfants sont victimes de la déparentalisation de leurs parents. C'est-à-dire que les parents s'infantilisent complètement. Et d'une certaine façon, vous avez une transmission à d'autres de ce lien très fort qui est le lien parental. Et du coup, la régression infantile des parents amène l'enfant à perdre tous ses repères, y compris ses repères générationnels. L'image parentale est brouillée, et elle est d'autant plus brouillée que dans beaucoup de groupes, même ceux qu'on considère comme, bon, pas si sectaires que ça, ou pas si infréquentables que ça, comme la Soka Gakkai, et bien même à la Soka Gakkai, l'absence de parents, la démission d'une certaine façon qui fait qu'ils ne sont que quelques heures par semaine avec leurs enfants le dimanche, le reste du temps étant pris par leurs activités professionnelles ou sectaires, fait que ces enfants ont une image parentale particulièrement faible. Donc, l'enfant cible est aussi un enfant instrument, et là je voudrais citer, et sous contrôle évidemment, M. Guinaud que j'ai vu apparaître tout à l'heure, et de M. Val qui représente apparemment la scientologie ce matin, ce qui se passe au sein de la scientologie, c'est-à-dire le contrôle exercé par les enfants sur leurs parents ou ceux qui les ont en garde. C'est ce qu'on appelle le Security Check Children, qui comporte un certain nombre de questions. Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas dire? As-tu refusé d'obéir à un ordre provenant de quelqu'un à qui tu aurais dû obéir? As-tu un secret? As-tu fait quelque chose dont tu as très honte? Y a-t-il quelque chose que tu devrais raconter à tes parents et que tu n'as jamais raconté? Donc vous avez un contrôle qui est exercé par les enfants sur la vie même ou ce qu'ils auraient pu voir ou entendre les adultes autour d'eux. On est dans le système totalitaire tel que le pratiquaient de grands hommes du XXe siècle. Dans tous les groupes sectaires, les enfants vivent l'enfermement, même lorsque le groupe sont faits, même lorsqu'ils fréquentent les postes publics. Et je voulais attirer en particulier l'attention sur le témoin de Jéhovah, puisque globalement l'éducation se fait avec le public, mais qu'il y a une seconde éducation à la maison, qu'il y a d'autres livres de lecture, et que ces livres de lecture sont bibliques, au sens de la Bible du témoin de Jéhovah, et que du coup, ce qui compte, c'est qu'il y a deux mondes et que progressivement se constitue une opposition croissante entre la construction qui est faite, qui tente d'être faite de socialisation à l'école et l'enfermement dans la vie géographique à la maison. Et ça peut se traduire par toute une série de clivages, mais ça, Jean-Claude Mas, je pense, nous en parlera. Dernière forme d'enfermement, c'est l'absence de possibilité de devenir réellement adulte et de s'insérer. Et là, beaucoup de groupes obligent les enfants qui vivent dans leur sein à ne pas poursuivre l'étude. Pas poursuivre l'étude parce qu'on s'en sert. C'est le cas, par exemple, de témoignages que l'on retrouve autour de l'organisme de la scientologie qui s'appelle la CIOR, dans lequel sont utilisés les jeunes pour organiser, rendre la vie plus facile, etc., les cadres de la scientologie. Mais c'est le cas aussi des témoins de Jéhovah, puisque l'urgence. urgence, c'est l'Apocalypse, annoncé peut-être en 2012, et que dans ce cas-là, faire les études, si le monde disparaît en 2012, ça n'a pas de sens. Mais si jamais le monde n'est pas en 2012, que vont devenir ces jeunes qui ont abandonné leurs études? Vous savez à quel point l'emploi des jeunes en ce moment est problématique. Donc, vous avez un paysage, là encore je ne reviens pas sur les cas les plus graves, qui se sont traduits par le jugement de bien-père sur la mort d'un enfant, dans un groupe, deux parents qui appartenaient à la communauté biologique, ou je ne reviens pas non plus sur les abus sexuels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'adultes, ils continuent à avoir des carences. Ils continuent à avoir des difficultés d'insertion et ils continuent à avoir de vraies difficultés même lorsqu'ils sont sortis du groupe et sortis du groupe depuis longtemps. Alors face à ce constat qui est tragique parce que on n'a pas d'exemple positif d'enfants qui s'en soient bien sortis. Quel est le rôle de l'État? Là, je vais vous rappeler d'abord quel est le rôle de l'État classiquement et vous montrer à quel point l'État est présent dans beaucoup de domaines, quel que soit le danger et sans caractérisation du danger pour les enfants. Le cadre législatif et réglementaire, cette partie s'appuie sur le travail fait l'an dernier par Mme Hermange, dont vous trouverez le rapport intégral au site de la documentation française qui s'appelle la sécurité des enfants. D'abord, la protection des enfants passe par la famille. Tout parent a à l'égard de l'enfant une triple mission: assurer son entretien, sa sécurité, son éducation. Cela est confirmé par la Convention des droits de l'enfant qui dit la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement à l'encontre au premier chef aux parents. Le Code civil précise que chacun des parents doit contribuer à l'entretien, répondre aux besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse de plein droit que lorsque l'enfant est majeur. Et je vous rappelle que, j'ai précisé depuis, que l'entretien dans le cadre des études peut se poursuivre. Le Code civil précise ce qu'on appelle l'autorité parentale, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas quitter le domicile des parents sans l'accord de ceci. Mais il précise aussi les devoirs des parents, et le premier de ces devoirs, c'est l'instruction. Instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 et 16 ans. Mais cette instruction, et je pense que l'inspecteur général Daniel Nicolas y viendra, peut se faire dans plusieurs cas qui ne sont pas forcément l'école publique. La famille qui ne saurait pas, qui n'aurait pas les moyens d'assurer cette instruction, peut obtenir de l'État des soutiens financiers, peut obtenir de l'État des soutiens psychologiques et d'assistance. Si les parents étaient totalement défaillants, le Code civil prévoit, la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Donc, si les parents sont défaillants, gravement défaillants, l'État se substitue aux parents. Le Code pénal est particulièrement répressif en matière de privation de soins ou de soustraction sans motif légitime des obligations légales qui pourraient compromettre la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation d'un enfant mineur. Donc, la famille est le pivot autour duquel l'éducation de l'enfant doit exister, mais si la famille est défaillante, je vous ai montré que pour les enfants, le problème c'est l'appartenance parentale, eh bien, l'État peut se substituer, l'État peut intervenir, l'État peut aider. Et c'est un cadre général qui n'est pas une loi spécifique en matière sexuelle. L'échelon éducatif, que je passe très rapidement, il y a effectivement contrôle par l'inspecteur d'académie à la fois du non-absentéisme dans les établissements publics avec des sanctions sur le catalogue familial, et puis de l'inscription et du suivi scolaire hors cadre éducation nationale. Il y a non seulement l'échelon familial, l'échelon éducatif, mais il y a l'échelon préventif. Et là, c'est le département qui est au cœur du dispositif, et il l'est d'autant plus avec la réforme qui est actuellement prévue autour de l'ASE, c'est-à-dire de l'aide sociale à l'enfance. Et de plus en plus, on est passé d'une forme de répression et de contrôle dans les années de l'après-guerre à des mesures d'assistance éducative. Les mesures de placement sont de plus en plus rares et on a de plus en plus de mesures en milieu ouvert qui permettent aux enfants d'être suivis sans pour autant totalement les priver de leurs parents, même si leurs parents sont éveillés. Ce qui pose problème aujourd'hui, et c'est ce que signalait le rapport de France, c'est l'accroissement des signalements auprès des ASE, soit par le biais des juges pour enfants, soit par le biais des signalements tels que tous les fonctionnaires les rappellent, ou tous les médecins, au titre de l'article 40, c'est-à-dire un signalement pour enfants en danger. Et ces signalements sont croissants, le rapport Hermange le note, et cela peut aussi être lié aussi à notre phénomène à nous. Je ne pense pas que ce soit seulement le phénomène sectaire qui accroisse ce mode de signalement, mais cela n'existait pas lorsque le système de protection des enfants était mis en place. Judiciarisation, ça veut dire que très souvent le signalement il est fait directement au procureur et que c'est donc par le biais de la justice que l'État a à connaître d'enfants en difficulté. Deux structures existent, vous le savez, le juge pour enfants et la protection judiciaire de la jeunesse. Ce qu'il y a, en conclusion à dire, c'est que de tout temps, l'État s'est préoccupé du rôle de l'enfant, de ce que devenaient les enfants, de l'avenir des enfants, et en particulier de leur sécurité. Un magistrat qui s'appelle Michel Higuet, et là aussi je vous renvoie à mon papier et à l'annexe, qui est l'ensemble de son texte, essaye de montrer combien la protection des mineurs, ou comment la protection des mineurs, peut répondre à la question sectaire. Son article date de 1996, et globalement, il a beaucoup changé, mais il s'est amené à être. Il reprend ce que disent les accords internationaux, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme ou le pacte de New York. Et il décrit finalement à la fois le droit fondamental de tout parent d'élever et de guider ses enfants, mais aussi ce que pose comme droit fondamental pour les enfants ces différentes conventions, ces pactes, c'est-à-dire la possibilité de sortir des groupes dans lesquels ils appartiennent, de se constituer leur propre croyance, d'avoir un droit à l'éducation, finalement ce qu'on appellerait en vocabulaire commun et non juridique, la possibilité de se forger un esprit critique. Et M. Huguette concluait, lorsque dans les idées véhiculées par le CET, dans les pratiques quotidiennes de ces membres, il n'y a rien qui semble suffisamment répréhensible pour justifier une intervention de l'autorité publique. C'est le constat de l'absence totale de liberté des enfants qui reste le seul argument utile, mais aussi suffisant pour justifier cette intervention. Cette affirmation doit être une référence fondamentale. Un mineur, quel qu'il soit, est en danger grave par le seul fait qu'il est maintenant enfermé dans un groupe isolé et coupé du reste du monde extérieur, dans lequel il n'a plus en conséquence la possibilité de s'insérer. Et c'est cette règle de base qui peut servir.
servir de support à une intervention politique dans toutes les sectes qui vont suivre dans mon jeu, d'un point de vue juridique, toutes ces pratiques des sectes qui enferment les droits les plus élémentaires des enfants sont aujourd'hui certainement condamnables. J'espère que j'ai entendu.
Bien.
Par l'exposé de Mme Fournier, qui est extrêmement exhaustif, synthétique, qui a bien mis le doigt sur les difficultés concernant ce problème majeur, essentiel des victimes, enfants dans les communautés sectaires. Est-ce que le droit est suffisant aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des spécialistes qui sont aussi capables que moi, plus informés que moi sur l'état actuel de la législation, je dirais, comme Mme Fournier, je dirais que les textes existent. L'ordonnance de 58 sur la protection des mineurs et l'assistance éducative existe. Elle permet beaucoup. On sait que l'article 375, je crois de mémoire, du Code civil, est dit que le juge des enfants peut intervenir lorsque l'éducation, la santé, la moralité de l'enfant sont menacées. Il a des pouvoirs importants, le juge des enfants. Il peut être saisi par le procureur de la République. Il peut décider d'une assistance éducative en milieu ouvert. Il peut retirer l'enfant, le chef de sa famille, la communauté dans laquelle on le contraint à vivre. Donc les textes existent. Ils ont été, M. Brocola nous l'expliquera tout à l'heure, améliorés aussi, notamment par le biais du contrôle de l'instruction, qui permet aussi des contrôles sanitaires. Tout cela existe. Certainement qu'on peut encore imaginer et améliorer. Moi, je me pose des questions, je lance comme ça, peut-être pour susciter ensuite le débat. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une association, je sais quel est le travail des associations, la DFI, CCM notamment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une association plus centrée, exclusivement centrée, sur la défense des mineurs? Parce que ce n'est pas uniquement la connaissance du phénomène sectaire, du problème des mineurs dans les sectes, c'est aussi un vrai travail de défense devant les juridictions, de désignation d'administrateurs ad hoc, d'avocats, il y a tout un volet juridique qui est extrêmement important. On peut imaginer aussi de réfléchir encore, pourquoi pas, à une amélioration de la loi Boupicard, de prévoir des circonstances aggravantes lorsque l'abus de vulnérabilité est commis sur des mineurs. On peut aussi imaginer aussi le le point de départ de la prescription des infractions contre les mineurs à partir du jour où les mineurs ont atteint la majorité. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça que nous pouvons faire parlementaires. J'insiste, Richard Michel m'a interpellé en tant que magistrat que j'étais il n'y a pas si longtemps, je viendrai peut-être un jour, mais en tant que parlementaire, je me sens autant le défenseur des libertés qu'en tant que magistrat. Je crois que notre rôle à nous parlementaires, c'est précisément d'aller là où les libertés sont le plus menacées. Et pour les mineurs, nous sommes en plein cœur de ce débat de société. Alors, je terminerai, parce que je ne veux pas faire moi, je suis pas prévu de faire ma question. Simplement, je dis, les moyens juridiques existent, ils peuvent être améliorés. Je ne suis pas certain que la volonté d'agir au sein de la justice, au sein des administrations, soit toujours à la hauteur du problème et du drame que représente cette question des mineurs victimes, embrigadés, qui n'ont pas la capacité de se défendre, évidemment. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, que dans son rôle de surveillance générale des libertés, du respect des libertés que détient le procureur de la République, vous savez que, par exemple, le procureur de la République doit effectuer des visites au moins semestrielles dans les hôpitaux psychiatriques, parce que c'est un lieu où les libertés peuvent être menacées. De même dans les prisons, de même dans les lieux de rétention. Pourquoi ne pas imaginer que le procureur de la République s'impose également, par voie de circulaire, une visite trimestrielle ou au moins semestrielle dans les communautés abritant des mineurs? Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, de recueillir les questions beaucoup en ce moment du recueil de la parole de l'enfant? On le voit à travers les affaires pédophilie, par exemple. On peut parfaitement concevoir que le procureur organise pour les enfants dans les communautés un lieu neutre, extra-sectaire, extra-communautaire, pour recueillir la parole de l'enfant plus librement. Tout cela sont des pistes que je lance comme ça dans la réflexion, mais encore une fois, le texte existe. Il faut que la magistrature, et moi je suis très favorable à l'idée, je pense que je voulais la développer tout à l'heure, monsieur le président, sur la création d'un correspondant d'un PJJ dans chaque département. On pourrait travailler aux côtés d'un correspondant, du correspondant actuel du parquet général. Voilà les choses, je pense, sur lesquelles nous pouvons réfléchir. Et j'insiste, l'importance, c'est la mobilisation. L'important, c'est la volonté, dans le cadre des textes déjà existants, de l'utiliser véritablement dans tout le collectif et avec la plus grande énergie.
D'autres personnes, ça va être très court, parce que je pense que c'est utile de la parole à la salle. Je partage tout à fait ce que vient de dire Jean Chenet. Il y a deux sujets qui sont des sujets d'actualité, notamment sur, par exemple, le droit des tutelles. Par exemple, auditionné récemment avec les deux ministres en charge, le ministre de la Défense et puis Philippe Bas, sur le projet de réforme des tutelles. Et dans ces projets, c'est vrai qu'il y a probablement, peut-être, à renforcer les propositions actuelles. On aura l'occasion d'en discuter dans le groupe d'études, par rapport à ce que prévoit la loi Bobica. Et je pense que là, il y a peut-être un petit complément à apporter. Il y a des magistrats qui ont travaillé dessus. On a eu l'occasion ensemble avec Jean-Pierre Barre, Jean Chenec, de rencontrer un certain nombre de magistrats qui travaillent spécifiquement sur le sujet. Et là, il y a pour nous, je pense, une législation à compléter. Et puis, le délai de prescription. On a parlé tout à l'heure des difficultés. Lorsque un adolescent sort de la secte, c'est vrai que du jour au lendemain, ce n'est pas évident d'aller porter plainte. Et, bon, il faut qu'il se reconstruise. C'est vrai pour l'enfant, c'est vrai pour l'adulte aussi. Et là, je pense qu'il y a un vrai souci dans le délai de prescription. D'ailleurs, l'individu avait souligné à l'époque le souci que ça posait. Donc, je pense que là aussi, il faudra qu'on puisse faire des propositions concrètes.
Dans la salle, est-ce qu'il y a des micros? Je ne sais pas si quelqu'un veut. Il y a des micros.
Donc, ma question, alors Didier Pacheron, président du GMPI, Ma question est plutôt posée sous l'angle de la crise. Nous avons vu qu'il y avait des décisions à la Cour européenne des droits de l'homme qui avaient été prises contre les décisions françaises. Est-ce qu'il est possible d'envisager, alors notamment concernant les enfants, est-ce qu'il est possible d'envisager un recours ou peut-être une information ou une mise en phase des instances européennes à ce sujet-là?
C'est quoi le sujet?
Le groupe d'études des mouvements de pensée pour la protection de l'individu à Marseille. Voilà ma question.
Oui, d'autres questions, on va répondre. Allez-y.
Bonjour, Michel Gilbert, Réseau Parental Europe. Monsieur Fenech, vous avez tout à fait raison de parler de l'arsenal de droit français qui est assez intéressant pour la défense et la protection des mineurs. Mais je me pose toujours la question, comme il y a 4 ans lors de la réunion que Monsieur Agbou avait organisée à l'Assemblée nationale, comment se fait-il que la Convention internationale des droits de l'enfant ne soit pas intégralement appliquée en droit interne? Ce serait là une bonne manière de pouvoir battre en brèche les organisations sectaires ou les tirages de quartier. Et l'autre chose, c'est, vous avez tout à fait raison sur les lois, mais Mme Guigou disait un jour, les députés votent les lois, les magistrats ne les appliquent pas. Comment faire?
Je suis conseiller municipal à Saint-Priest et je dirige un établissement où on reçoit des gens passés par le juge dans le cadre de la zone. Donc j'ai deux questions parce que il y a une question qui m'a été posée. La première, il y a eu un débat autour des témoins de Jéhovah. Est-ce que la question est penchée? Est-ce que c'est une secte, oui ou non? Moi, je veux savoir. Et la deuxième question, j'ai l'impression que les sectes sont devenues des zones d'endroit. Comment on est arrivé là? Est-ce que parce que tout ce qu'on a vu, nos institutions sont infiltrées par les sectes ou les magistrats et les banquiers ne jouent pas leur rôle? Je voulais savoir pourquoi on est arrivé.
Alors, on va déjà répondre un peu à cette série de questions qui a envie de répondre. Témoin de Jéhovah. Monsieur le rapporteur, ancien en tout cas.
Ancien, puisque vous savez qu'un rapporteur de commission d'enquête, par nature, c'était éphémère, c'est forcément. Sur les témoins de Jéhovah, je restais tout à fait dans notre sujet, l'exposé de Mme Fournier tout à fait clair. Les groupes sectaires coupent en particulier les enfants de l'environnement social et familial. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on fait de futures personnes inadaptées et asociales, marginalisées dans leur propre société. Donc on prépare l'isolement et l'échec total. Alors, de ce point de vue, vous savez que par exemple, le témoin de Jéhovah n'a pas le droit de participer aux activités sociales et collectives, parce qu'ils sont inspirés évidemment par Satan. Et par exemple, les enfants, les témoins de Jéhovah ne fêtent pas les anniversaires, ne fêtent pas Noël, même Noël sur volet laïque, hein, je veux dire, à l'école, quand il y a la fête de Noël, ça n'a rien à voir avec le caractère religieux de l'affaire. Mais il y a plus grave. Vous savez, nous tenons beaucoup, là, les parlementaires qui sont investis là-dessus, c'est que les croyances, ce n'est pas notre problème. La façon de manifester son appartenance ou son affiliation à une croyance, ce n'est pas notre problème. Je discutais avec un homme éminent d'église hier, je disais, vous savez, sur ce sujet, que les gens croient au bon Dieu ou aux tables qui tournent, ma foi, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Par contre, la loi, vous devez, dans notre pays, assistance à personne en danger. Et il y a, pour les témoins de Jéhovah, la fameuse question de la transfusion sanguine. Alors, il y a la situation des adultes, sur laquelle nous pourrions parler à l'infini, mais il y a la question des enfants, qui est notre sujet aujourd'hui, et qui ne peut pas tolérer la moindre hésitation. Et j'ai eu, vous savez peut-être, vous avez peut-être suivi ça dans les médias, j'ai eu une confrontation avec le docteur Pelou. qui, comme chacun sait, est secrétaire général fondateur de l'association fondée des témoins de Jéhovah, de l'association nationale droit des patients. Et c'est important, ouais. Vous pouvez vérifier au bureau des associations de la préfecture de police de Paris. Et j'ai posé une question simple et que je maintiens parce que de la réponse à cela résulte qu'on observe ou non la loi, qui est notre seul critère. Est-ce criminel de refuser une transfusion sanguine à un patient dès lors que le pronostic vital est engagé s'il n'y a pas de transfusion sanguine? Ainsi clairement formulée, la question appelle une réponse claire. On répond forcément par oui ou par non. Eh bien, les témoins de Jéhovah, évidemment, ne répondent pas, parce que répondre par non, c'est très embêtant, et répondre par oui, c'est renier l'obligation qui s'impose aux membres de la secte. Et donc, voyez-vous, quand ça s'applique à des enfants, c'est-à-dire que les parents exigent que le médecin ne fasse pas de transfusion sanguine, vous avez la réponse à votre question, monsieur. Nous avons donc un groupe qui organise évidemment la dépendance de ses membres vis-à-vis du groupe, mais à l'évidence, c'est un groupe qui viole la loi et qui refuse l'assistance de la société à ses membres, et en particulier aux enfants des parents des témoins de Jéhovah, même quand il y a risque vital pour l'enfant.
Sur l'application de la loi, côté messieurs et mesdames, madame la parlementaire, est-ce que vous avez voulu réagir en... sur l'application de la loi?
Il est de bon ton aujourd'hui de critiquer tout ce que la magistrature, on le voit en ce moment. Et je participe, je participe à la critique positive. Mais il faut les dirigeants. Il faut avoir cet esprit critique. Quand je disais tout à l'heure, les textes existent, il manque la volonté, c'est aussi une critique. Pas une critique personnalisée sur tel ou tel. Critique du système qui veut qu'on attend peut-être toujours que l'irréparable se recule. Moi, j'ai en mémoire évidemment quelques affaires, le petit Raphaël, on se souvient de Death Place. Pour que la société aille, je pense qu'il faut sortir de cette culture de l'attente, que le fait soit connu, il faut faire beaucoup plus de prévention. Et le juge, le procureur ont les moyens de faire aussi de la prévention et pas uniquement intervenir à titre répressif, pour réparer ce qui peut être encore réparé. C'est pour ça que je pense que les contrôles par l'autorité judiciaire, qui est garante des libertés individuelles, doit être renforcés. Alors voilà, nous votons des lois, encore faut-il effectivement qu'elles soient appliquées dans toutes leurs dispositions et dans l'esprit du législateur. C'est aussi le rôle, je pense, de la Miviludes. Cas, c'est aussi magistrat ici, secrétaire général de la Miviludes, nous dira probablement lors de son intervention, c'est le rôle de la Miviludes d'inciter le garde des Sceaux à justement harmoniser cette action de prévention sur l'ensemble du territoire. C'est le rôle de groupe d'études, de poser des questions. On en pose beaucoup, notamment au garde des Sceaux, sur comment les textes sont. Et c'est le rôle très important des associations, ici dignement représentées, de pouvoir aussi, maintenant elles peuvent le faire, rester en justice, se porter partie civile, déclencher l'action publique. Donc vous voyez que les dispositifs existent et les clignotants existent.
Oui, alors justement, je voulais donner la parole à M. Roulet, mais permettez-moi de vous poser très concrètement une question par rapport justement à l'application des textes. Quand je vous entendais tout à l'heure, madame Fournier, je me revenais en souvenir d'une époque lointaine où j'ai rencontré des enfants Khmer Rouge. Et vous parliez de ces enfants tout à l'heure, aussi les enfants, dans le cadre de la guerre, je dirais, ont un rôle, on leur fait jouer un rôle de persécution sur leurs propres parents, qui ne veulent pas aller dans tel courant de pensée ou tel clan, etc. Est-ce que sur ces questions-là, vous travaillez un peu, et évidemment,